Studio Tamani, voici les informations en français.
À la présentation, Sékou Gadjigo, mise en onde, Nouhoum Djiré, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres. L'armée malienne continue son offensive contre les groupes djihadistes. Elle indique avoir neutralisé une centaine d'éléments de ces groupes. Au même moment, près de 20 000 Maliens se sont réfugiés à la frontière Mali-Niger. Les femmes des partis politiques veulent aller au-delà de la loi 052. Elles l'ont fait savoir lors d'une journée d'échange hier sur le rôle et l'implication des femmes dans le processus électoral. Le Mali est l'invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco, mais le pays n'a aucun film en compétition pour l'étalon d'or du Yéninga. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dans un communiqué publié le 10 février dernier, les forces armées maliennes ont annoncé la neutralisation de près d'une centaine de djihadistes. Dans le dit document, les FAMA indiquent avoir détruit des sanctuaires et récupéré des munitions et armements. Au même moment, d'autres terroristes opérant dans le Sahel se sont rendus aux autorités algériennes. Adama Amadou Aïdara nous donne plus de détails.
Ces opérations se sont déroulées de fin janvier à début février au nord et au centre du pays. C'est du moins ce qui est mentionné dans ce communiqué des FAMA. Il s'agit notamment de 11 opérations menées dans les régions de Ségou, Mopti et Badiangara. En plus de ces opérations, 16 missions de reconnaissance offensive ont été aussi menées dans les zones comme Soufara, Kona, Douanzan, Ansongo et Menaka. Le bilan inscrit dans le communiqué est de 10 sanctuaires terroristes détruits, 82 terroristes neutralisés, dont 37 dans la seule opération de Korianze du 6 au 7 février 2023. 35 suspects ont aussi été interpellés dans les secteurs de Bafo, Soufara et Badiangara. À cela s'ajoute la récupération d'une importante quantité de munitions, d'armes et d'engins explosifs. L'état-major général des armées affirme que ces actions se poursuivront dans les zones de regroupement des ACATS. Par ailleurs, nous avons appris que deux terroristes opérant dans le Sahel se sont rendus aux autorités algériennes le 2 février dernier. Les faits se sont déroulés à bord du Badj Mokhtar, une commune située dans le sud de l'Algérie, à la frontière avec le Mali. L'information a été confirmée la semaine dernière par le ministère algérien de la Défense.
Je vous le disais tantôt, à la frontière entre le Mali et le Niger, environ 20 000 Maliens se sont réfugiés dans le village de Tassara, dans la région de Taoua au Niger. Ce chiffre a été confirmé par le maire de la localité, Ibrahim Mohamed. Selon l'élu communal, ces personnes ont fui les menaces et les violences qui sévissent à Ansongo et Menaka. Il alerte sur les conditions humanitaires difficiles de ces réfugiés. Il est joint par l'Alitangara.
Ils sont en territoire nigérien depuis 2-3 mois déjà, mais compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire près de la frontière des deux pays, l'essentiel de ces réfugiés vient principalement des Egaraktons, nous estimons qu'ils sont autour de 20 000 hommes et femmes. Leur situation humanitaire est très préoccupante, ils manquent pratiquement de tout, ils manquent d'eau, ils manquent de nourriture, ils manquent d'abri, ils manquent de soins de santé, ils sont vraiment exténués.
Faites un tour sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook ou notre compte Twitter pour réagir à toutes ces informations. Le 31e congrès de l'Association des élèves et étudiants du Mali a eu lieu ce week-end à Bamako. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général sortant de l'AIM, Sirimon Seydou Niari, a été élu pour un troisième mandat. Cette réélection est contestée par certains membres de l'association. Les détails avec Khalifa Goïta.
Selon un ancien secrétaire général de l'association, le statut et règlement de l'AIM actuellement en vigueur est celui adopté lors du 13e congrès de l'association le 29 décembre 2005. Ce texte ne limite pas le nombre de mandats du secrétaire général de l'association, a-t-il précisé. Toutefois, des responsables du nouveau bureau élu annoncent que le congrès du week-end dernier a adopté un nouveau texte de statut et règlement qui fixe désormais le nombre de mandats à un an renouvelable une seule première fois. Ils expliquent que par ailleurs, ce 31e congrès était un moyen de donner plus de légitimité à l'association afin de maintenir la stabilité au sein de l'espace scolaire et universitaire. Cette élection est cependant contestée au sein de l'association étudiantine. Des militants et sympathisants de l'AM en colère ont marché la semaine dernière pour manifester leur mécontentement contre le troisième mandat de Sirima Seydou Niaré. Ils menacent de mener d'autres activités pour se faire entendre.
Les explications de Khalifa Goïta, 8h05 à Bamako. Comment inclure les femmes dans le processus électoral? La question était au centre d'une journée d'échange qui a eu lieu ce lundi 13 février 2023 à Bamako. Cette rencontre a été initiée par Consortium for Election and Political Process Strengthening, CEPPS, The International Foundation for Electoral System, IFES. Selon les responsables, l'objectif de cette rencontre est d'approfondir la compréhension des participantes au rôle et responsabilité des parties prenantes majeures dans les processus électoraux. Le reportage de Ali Mayatara.
Pour les participantes, leurs attentes sont grandes. Elles estiment que les efforts des femmes des partis politiques doivent aller au-delà de la loi 052, c'est-à-dire les femmes doivent être parties prenantes à des procédures électorales. Mariam Samake, membre du cadre de concentration des femmes de partis politiques.
Les attentes seront vraiment une majeure compréhension du cycle électoral et puis l'inclusion aussi des femmes sur les postes électifs et nominatifs. Donc je pense qu'après cet atelier, nous aurons vraiment une vision plus claire du système électoral au Mali.
Monsieur Elias Touré, membre de l'EJE, aborde dans le même sens. Il estime qu'il faut multiplier la sensibilisation pour que les femmes ne restent pas en marge de la procédure.
15 femmes élues contre 132 sur les 147 députés de la dernière législature et au Conseil national. 33 sur 121, soit 27%. Sur les 14 conseillers de la Chambre de commerce, on compte 2 femmes. On ne peut pas se baser uniquement sur la loi.
À cet égard, la loi 052, bien que des progrès ont été accomplis, des efforts demeurent nécessaires pour une meilleure participation des femmes à la vie politique au Mali.
Sur un tout autre sujet, à présent, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco se tiendra du 25 février au 3 mars prochain dans la capitale burkinabé. Le Mali sera l'invité d'honneur de cette édition, une occasion donc pour le pays de projeter des films dans le cadre du focus sur le Mali. Cependant, il est à préciser qu'aucun film malien n'a été sélectionné dans la catégorie étalon d'or du Yenega. Le directeur du Centre national de cinématographie du Mali l'explique par la baisse de la qualité de la production cinématographique du pays. Écoutons Fousseini Maïga au micro de Mariam Koulibaly.
On eût été le choix du Mali comme invité d'honneur cette année. Nous avions pris la résolution de ne pas envoyer de délégation au FESPACO cette année. Notre objectif était de mettre à profit cette période pour réfléchir et tirer les conséquences sur notre cinéma. Et le programme aujourd'hui, c'était, pendant que le FESPACO s'était né à Ouaga, d'organiser 3 ateliers qui allaient nous permettre de mettre en résidence des scénaristes avec les meilleurs experts en la matière pour pouvoir développer 3 ou 4 films de belles histoires qu'on allait prendre pour préparer le prochain FESPACO. C'est pour vous dire tout simplement que le FESPACO de 2025 allait commencer à être préparé à partir de maintenant. Et les films aujourd'hui qui concourent à l'étalon du Yenega sont des films qui n'ont pas moins de 800, 900 ou 1 milliard de budget.
La chronique du jour porte sur la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Le 14 février est l'occasion pour ces derniers et même des membres d'une famille de se donner des cadeaux. Aïssata Diarra pour la rubrique Zoom sur.
Quelques heures du Saint-Valentin, les marchés sont inondés des présents comme montres, des ours en peluche, des bracelets et des fleurs entre autres. Pour des high level, c'est des voitures, des iPhones ou encore des montres Rolex. Tout compte fait, qu'ils soient titulaires ou second plan, tout le monde aspire à un cadeau lors de cette fête pour se sentir aimé et considéré. Pour l'occasion, on a ceux qui se donnent mutuellement des cadeaux. Il y a aussi des hommes ou des femmes qui en reçoivent beaucoup, car il ou elle a beaucoup de partenaires. La fête est aussi une opportunité pour des enfants d'offrir des cadeaux à leurs parents, car pour eux, le vrai amour, c'est celui des parents. Être aimé ou ne pas être aimé, cette fête ne dit rien à certaines personnes. Selon eux, tous les jours sont bons pour être aimé et entretenir une relation.
Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sékou Gadjigo, mis en nom Nuhum Djiré. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org. L'identification des puces de téléphone avec les différentes sociétés mobiles se fait désormais sur présentation des numéros d'identification nationale NINA. Cette décision prise par l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP est en vigueur depuis le 1er février 2023. Les revendeurs de ces puces regrettent cette nouvelle mesure. C'est le sujet du magazine Mali Courant d'aujourd'hui. Il est réalisé et présenté par Imirana Kilumaïga.
Cette mesure a été prise suite au lancement de la carte biométrique sécurisée par le biais du numéro d'identification national NINA. Abdoulaye Koulibaly, secrétaire exécutif de l'autorité malienne de télécommunications et de postes AMRTP.
C'est un impératif sécuritaire qui nous a poussé à aller vers d'abord la limitation à 3 puces par opérateur et aussi à demander à ce que la loi soit appliquée pour une identification sur la base du numéro NINA. Et aussi ces derniers temps, il y a eu la demande des hautes autorités d'aller vers l'identification des abonnés et cette fois-ci avec le numéro NINA.
Certains citoyens maliens au centre et au sud du pays ont jugé cette décision salutaire. À Bankass et à Yorosso, des populations estiment que cette identification à travers le numéro NINA sécurise davantage le processus.
C'est une bonne chose parce qu'au moins ça nous permettra de nous identifier. Parce que là, on peut surveiller tout le monde.
L'initiative, elle est bonne. Ça peut amener la sécurité, la stabilité. Donc, éviter les vagabondages, l'arnaque, tout comme ça.
Les assaillants, pour ne pas dire les bandits armés qui vivent autour de nous, peuvent se servir des pistes, de nouvelles pistes achetées, faire des communications, des vocaux entre eux-mêmes. Orange peut se servir avec les nouvelles technologies pour repérer.
Par contre, d'autres personnes estiment qu'il y a des préalables qui n'ont pas été pris en compte.
C'est très difficile d'aboutir à des résultats satisfaisants, car il n'y a que 30% des Maliens qui ont des cartes NINA. La carte d'identité, normalement, doit être acceptée. Au lieu d'exiger la carte NINA, il faut faire en sorte que tout le monde l'ait.
Nous faisons tout avec nos téléphones de nos jours. Pourquoi lier l'autre de la puce à la carte NINA qu'on n'a même pas. Laisser nos anciennes pièces pour la carte NINA est compliqué.
L'AMRTP affirme que des dispositions ont été aussi prises pour les personnes qui ne disposent pas de numéro d'identification. Ces dernières peuvent se faire enrôler dans les centres de traitement de données d'état civil à travers le pays. Abdoulaye Koulibaly, secrétaire exécutif de l'AMRTP.
Nous sommes convenus que ceux qui n'ont pas le numéro NINA, les personnes qui ne sont pas enrôlées, peuvent passer dans les centres dédiés du CTDEC pour se faire enrôler et obtenir un numéro NINA dans un délai de 2 semaines et revenir et acquérir légalement le nombre de puces qu'ils veulent. On a limité le nombre à 3 puces par opérateur.
Des revendeurs de puces regrettent la décision. Ils se voient perdre leurs emplois après plus de 10 ans de partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Nous sommes allés à Orange Mali et Move Africa. S'ils peuvent nous trouver une solution. Ces agents nous ont exigé la présentation de la carte NINA. Où peut-on avoir ça pour activer nos puces? On ne peut plus vendre avec ces puces-là. Or, nous sommes des chefs de famille.
Nous sommes partenaires avec Orange Mali il y a plus de 10 ans. On ne peut plus dépasser 3 puces. Cette situation est dure pour nous.
La MRTP affirme ainsi que les revendeurs seront désormais des simples acheteurs.
Bon, avec ça, la vente des puces comme des bonbons doit s'arrêter. Parce que avant, les revendeurs, ils pouvaient acquérir autant de puces qu'ils voulaient en leur nom. Mais avec ça, un revendeur sera considéré comme un simple abonné.
Rappelons que cette nouvelle mesure est en cours depuis le 1er février dernier.